question au fait, à savoir les problèmes de définition et puis de localisation de ces maisons. D'abord, un petit retour étymologique, rapide. Hein, maison hantée, c'est un lien évidemment avec la hantise. Ce terme de hantise, il est ancien. Il y a des racines communes pour désigner ce mot à peu près dans toutes les langues. Et on va retrouver à chaque fois ces mêmes premières lettres dans toutes les langues européennes et occidentales. Et jusqu'au 18e, 19e siècle, le mot hantise a un sens très différent de celui qu'on connaît aujourd'hui. C'est peut-être la première surprise. Le mot hantise, jusqu'au 19e siècle...
On va changer de micro.
Voilà, pardon, merci.
Voilà. Le mot hantise, voilà, jusqu'au 19e siècle, il a un sens très différent de celui qu'on le connaît aujourd'hui. Hantise, ça veut dire fréquentation régulière. Et le terme continue à rester dans certaines expressions et désuètes. Hein, hanter les cabarets, hanter les bars, hanter les lieux louches, c'est-à-dire les fréquenter assidûment. Donc jusqu'au 19e siècle, le mot hanté, le mot hantise, va être assez peu utilisé. On va les trouver dans les pièces de Racine, de Corneille, pour dire une fréquentation. Pas forcément d'ailleurs en mauvaise part. Et le mot hantise change de sens à partir du milieu du 18e siècle, probablement grâce aux Anglais. Donc c'est en quelque sorte un anglicisme, un transfert de l'anglais pour signifier fréquenté par les fantômes, les spectres, les revenants et d'autres âmes errantes au XIXe siècle. Donc ça, c'est peut-être la première surprise, se rendre compte que même si dans toutes les régions du monde, et depuis très longtemps, depuis l'Antiquité, on a des récits, des histoires de maisons hantées, en fait, le terme de maison hantée et le mot de hantise ne prend le sens et l'acception qu'on le connaît aujourd'hui que finalement au siècle des Lumières, à l'époque des philosophes. Alors, la deuxième chose, c'est en fait, quand on s'intéresse aux maisons hantées, on est confronté à un véritable problème de définition. Et donc, on en revient à peut-être la première diapositive différente. S'il vous plaît. Voilà. On va dire qu'en gros, quand on s'intéresse aux maisons hantées, on a affaire à des discours qui proviennent de trois groupes d'acteurs différents. Des acteurs, on va dire, traditionnels qui ont des discours sur les maisons hantées, sur la hantise depuis longtemps, et puis des acteurs qui apparaissent au XIXe siècle et qui vont devenir très importants jusqu'à nos jours pour définir et expliquer les phénomènes de hantise. Alors, premier groupe traditionnel, ce sont d'abord les églises, hein, c'est-à-dire ce sont les religions qui ont élaboré, ont retenu, ont écrit les premiers récits de maisons hantées. Alors, ces églises chrétiennes, hein, dans les espaces que je vais considérer, à savoir la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis, donc des pays à majorité chrétienne, qu'ils soient catholiques ou protestants, ces églises chrétiennes ne vont pas parler, en tout cas jusqu'au XIXe siècle, de maisons hantées. On utilise d'autres termes. Évidemment, on utilise plutôt du latin. Donc on parle de locus infestus, de loca infesta. Et donc, on va garder plutôt le terme de maison infestée, éventuellement de maison possédée. Pour ces églises chrétiennes, les maisons hantées sont le signe d'une malédiction diabolique, d'une possession, et donc sont l'un des lieux où l'on observe le combat du bien contre le mal, des esprits maléfiques contre... les esprits bénéfiques. Et progressivement, les églises ont élaboré une sorte de remède. Alors, il y en a deux, hein, j'en ai évoqué un, mais le premier remède, en quelque sorte préventif, c'est la bénédiction. C'est-à-dire que les lieux vont être bénis, et vous savez bien que, notamment dans les chambres, hein, qui sont les lieux potentiellement où le mal peut survenir, on va mettre des crucifix. Hein, donc, il y a des bénédictions de lieux, il y a des bénédictions évidemment des nouveau-nés, et on essaye de marquer les lieux et les individus avec des signes bénéfiques. Et puis, un remède curatif, hein, lorsque le mal s'est produit, c'est ce qu'on appelle l'exorcisme. Alors, l'exorcisme, ça apparaît dans l'Antiquité, au 3e ou 4e siècle, donc il y avait rituels d'exorcisme qui vont être créés, mis en place, et puis ils vont être progressivement raffinés. Aujourd'hui encore, il y a dans tous les diocèses deux prêtres exorcistes. Vous pouvez avoir recours à des exorcistes. Et l'exorcisme, en particulier à partir du 18e et du 19e siècle, est vraiment vu comme un remède en dernier recours, quelque chose d'assez mal vu. Et en fait, on observe qu'on a eu de moins en moins recours à l'exorcisme à partir du 19e siècle. Tout simplement parce qu'il y a des dangers, on y reviendra peut-être, sur le fait que l'exorcisme ne fonctionne pas et que d'autres acteurs récupèrent, trouvent d'autres moyens, proposent d'autres moyens de se débarrasser des revenants. Il y a un deuxième groupe d'acteurs qui apparaît et qui va être très producteur d'archives, de témoignages, de littérature sur les maisons hantées, c'est le groupe des spirites. Le spiritisme, ça apparaît au milieu du 19e siècle. Vous connaissez peut-être le chef de file du spiritisme en France qui s'appelle Allan Kardec, hein, c'est son nom de mage. Sa tombe est toujours une des tombes les plus visitées aujourd'hui au Père-Lachaise à Paris. Et avec les spirites, la conception de la maison hantée va radicalement changer. La maison hantée va devenir un lieu beaucoup moins inquiétant. Qui n'est pas forcément un lieu du combat du bien contre le mal, ça va être plutôt une maison habitée par des esprits. Alors déjà, ce n'est plus tellement la possession diabolique, ce n'est plus tellement les revenants, les mâles morts qui viennent embêter les vivants. Ce sont plutôt des esprits, alors des esprits qui se manifestent notamment par des bruits, ce qu'on appelle les esprits frappeurs, hein, les poltergeists. Et ces esprits sont considérés comme des esprits de bas étage, de basse extraction, qui ont une vie considérée comme médiocre ou mauvaise, et qui donc seraient bloqués dans un cycle de réincarnation. Donc ces esprits hantent les maisons, c'est-à-dire, pour les spirites, essayent d'entrer en communication avec les vivants. Donc la hantise devient en quelque sorte un moyen de communication, évidemment très différent de la façon dont les églises considéraient les maisons hantées. Et donc, on va avoir un diagnostic finalement très différent. On considère que nous sommes entourés d'esprits, chacun d'entre nous est entouré d'esprits, que ces esprits, pour la plupart, n'ont pas affaire à nous. Mais certains essayent d'entrer en communication avec nous, et les maisons hantées deviennent en quelque sorte un lieu de communication. Et c'est aussi le lieu qui va révéler ceux qui ont des talents particuliers. C'est-à-dire que la maison hantée va permettre de révéler le médium. Donc la maison hantée devient en quelque sorte un lieu presque positif, et on va avoir au 19e siècle une multiplication des maisons hantées, mais vraiment une multiplication des maisons hantées, les maisons hantées pullulent. Alors, on va aussi rappeler rapidement qu'au 19e siècle, en France par exemple, le nombre des morts de la Révolution française, des guerres napoléoniennes, puis de tous les sursauts, les remous qui vont avoir lieu donc, au cours du siècle, vont provoquer des deuils nombreux, et le rapport à la mort change. La mort est vécue de manière beaucoup plus tragique, et les contemporains sont inconsolables. On pensait par exemple à Victor Hugo, qui fait partie de ces gens qui, à Guernesey, vont essayer d'entrer en communication avec les esprits, notamment pour Victor Hugo, soit les esprits des grands poètes comme Shakespeare, soit l'esprit de sa fille Léopoldine qui est morte, en faisant tourner les tables. Le moyen d'entrer en communication, ça va être la communication typologique, hein, les tables tournantes, les guéridons, et éventuellement entrer en communication aussi, utiliser des médiums, faire des séances de spiritisme. Les séances de spiritisme ont un succès considérable au 19e siècle, tout le monde y a recours, y compris Napoléon III par exemple, l'impératrice Eugénie, c'est-à-dire tout le monde, que ce soit des gens de la campagne ou des villes, légende du peuple ou des élites, tout le monde a recours au spiritisme, de manière vraiment, c'est un effet de mode spectaculaire à partir de la seconde moitié du 19e siècle. Et puis, un peu plus tard, à partir des années 1860, il y a une nouvelle catégorie d'acteurs qui s'intéressent aux maisons hantées pour en faire un discours différent. Et ces acteurs, on peut les appeler des chasseurs de fantômes. Ils apparaissent en particulier d'abord en Angleterre, ce sont des ghost clubs. Et puis ensuite, ils vont constituer des instituts savants. Alors, si je les ai mis à part, c'est parce qu'en fait, ils vont avoir une démarche différente. Ils n'ont pas d'explication toute faite au départ. Ils vont plutôt considérer que la hantise est un problème à résoudre. Et ils vont avoir des démarches différentes pour essayer de comprendre ce que c'est que la hantise. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Vous avez par exemple des physiciens qui vont essayer de comprendre ce que c'est qu'une maison hantée, et si les maisons hantées ne s'expliquent pas par des raisons tout à fait naturelles, qui seraient par exemple des failles ou bien des champs d'ondes magnétiques situés sous la maison. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas finalement un problème tout à fait naturel qui permettrait de comprendre ce que sont les maisons hantées ? Vous avez aussi des médecins qui, eux, vont plutôt s'intéresser aux occupants des maisons hantées en se demandant si finalement la hantise n'est pas quelque chose d'interne, de personnel, et si les gens qui habitent les maisons hantées ne sont pas finalement, eux, hantés et possédés. Ce champ amène vers la hantise comme folie. Vous avez aussi des gens qui vont essayer de se demander si le phénomène de hantise n'est pas un phénomène psychique, psychologique, alors beaucoup moins maladif cette fois-ci que la folie, mais ce sera de l'ordre d'une hallucination collective. Donc tout un tas de démarches, scientifiques ou pseudo-scientifiques. Alors pseudo-scientifiques, par exemple, beaucoup de gens au 19e siècle, c'est le siècle des progrès scientifiques, un très très grand nombre de découvertes scientifiques, se demandent si finalement les maisons hantées ne posent pas un problème de frontière entre ce que nous savons et ce que nous ne savons pas, et cherchent donc à travers l'étude spécifique des maisons hantées à découvrir de nouvelles forces. Par exemple, dans de très nombreux cas de maisons hantées, il y a des déplacements d'objets, des objets qui volent, des tables qui se renversent. Donc, d'où vient cette force ? Et c'est ainsi qu'on va inventer, par exemple, découvrir la télékinésie. Donc, tout un tas de recherches sur les maisons hantées qui vont donc considérer les maisons hantées comme un laboratoire d'expérimentation où on peut peut-être découvrir des choses inconnues. Et donc, en fait, à partir de la fin du 19e siècle, les maisons hantées vont donner lieu à de très grands débats. Donc, on a là aussi des sources très nombreuses, avec des acteurs qui se disputent pour savoir quelle est la cause de la hantise. Ce qui participe peut-être aussi au fait que, progressivement, à partir du 19e siècle, une partie de la population, une partie de l'opinion publique commence à s'éloigner un petit peu de ces maisons hantées, même si la croyance, jusqu'à aujourd'hui, dans les maisons hantées, demeure très forte. Quand je parle de croyance, ça veut tout simplement dire qu'il y a eu des sondages dans les pays que j'ai observés, notamment aux États-Unis, qui montrent qu'aux États-Unis, par exemple, il y a plus de la moitié de la population qui pense avoir vu des fantômes, des esprits, qui connaît une maison hantée. Et il y a beaucoup de monde, aussi en Grande-Bretagne et en France, qui connaissent ces maisons hantées, qui ont entendu parler de maisons hantées, etc. Donc voilà pour vous montrer d'abord quand même la complexité de ce que c'est qu'une maison hantée. Deuxième élément pour vous montrer la complexité d'une maison hantée, on va passer par des cartes. Donc on va regarder une première carte. Alors cette carte représente, donc je l'ai fabriquée à partir de cas recensés dans différentes revues. C'est-à-dire qu'ici, je me suis intéressée uniquement au cas de maison hantée médiatique. Alors, maison hantée médiatique, c'est-à-dire qu'il y a pu y avoir une série d'articles, parfois pendant plusieurs années, qui sont revenus sur ces phénomènes de hantise. Alors, les sources sont nombreuses, mais il y en a notamment, évidemment, la presse qui en parle le plus, c'est la presse spiritualiste, mais ces cas ont aussi, c'est pour ça que je les ai retenus, été discutés dans la presse nationale, la presse quotidienne et régionale, c'est-à-dire que on a vraiment, de nombreux journalistes s'y sont déplacés, il y a eu des enquêtes et des séries d'articles. Alors, ce qu'on observe, c'est que il y a des lacunes assez étonnantes. C'est le fait qu'il n'y ait, par exemple, aucune histoire vraiment médiatique en Bretagne, à l'ouest de la France, peut être surprenant. Rien non plus dans le centre de la France et dans les régions montagneuses, alors que les croyances sont nombreuses. On observe aussi que les affaires médiatiques sont souvent des affaires qui ont lieu dans les villes. Vous en avez à Paris, vous en avez à Marseille, vous en avez à Bordeaux. Donc les villes sont assez largement représentées. Et puis, vous avez des phénomènes aussi qui ont eu lieu dans des petits villages qui ont profondément marqué. Alors, une affaire notamment qui a été très importante pendant près de 2 ans, où se sont déplacés des médecins, des exorcistes, des journalistes, pratiquement tout ce qu'il y avait d'éminents scientifiques se sont déplacés au petit village de Morzine, qui est juste à côté d'Avoriaz aujourd'hui. Où il y a eu un phénomène de possession, en fait, le village entier était possédé, c'est le terme qui avait été utilisé à l'époque, et ça a duré près de 2 ans, donc il y a eu des articles très très nombreux sur Morzine. Voilà une première représentation de l'antise. Si on regarde maintenant une deuxième carte, cette fois-ci en ne s'intéressant plus aux cas médiatiques, mais à des recherches faites par... un ethnologue qui s'intéresse cette fois-ci aux croyances, c'est-à-dire qu'en fait, il a été enquêté pour savoir en France quelles étaient les régions, les départements où les croyances étaient les plus fortes et les plus nombreuses. On voit apparaître une géographie très différente, avec cette fois-ci une surreprésentation de la France de l'Est, des espaces frontaliers, et une surreprésentation qui apparaît peut-être moins parce que la carte se fait sous la forme de d'aplats de couleurs sur des départements, mais une surreprésentation des campagnes et une surreprésentation aussi des espaces montagneux. Donc voilà une autre carte complètement différente de ce qu'on pourrait appeler la hantise au XIXe siècle. Et puis une troisième carte qu'on va voir à présent, qui cette fois-ci est faite à partir des travaux d'un gendarme qui s'appelle Tisanet et qui s'est intéressé à tous les cas de hantise qui ont été recensés et rapportés à l'INI, un institut métapsychique international qui est un des instituts de chasseurs de fantômes. Et là où c'est intéressant, c'est que la source est différente, ce ne sont pas des affaires médiatiques, ce ne sont pas simplement des croyances, ce sont des gens qui ont écrit des lettres, qui m'ont envoyé des photographies, des témoignages pour dire qu'ils avaient été témoins de cas de hantise. Donc vous avez à nouveau une autre représentation, avec cette fois-ci, par exemple, une bonne représentation de la Bretagne, notamment du Finistère. Mais voilà, donc 3 cartes. Sur une période chronologique relativement proche, ici vous avez des cas qui vont jusque dans les années 1940, 3 cartes relativement proches sur les périodes chronologiques et qui font apparaître 3 France différentes. Donc c'est ce que j'essaye simplement de vous montrer avec ces questions de définition et ces questions de cartographie, c'est qu'en fait le phénomène de hantise est très complexe à saisir et que ça dépend en grande partie de la façon dont les acteurs en ont parlé. Alors, j'en viens maintenant à quelque chose qui me paraissait peut-être intéressant, peut-être plus intéressant ici dans le cadre d'un festival s'intéressant au film, c'est de travailler sur la façon dont, à l'époque contemporaine, qui est la nôtre aujourd'hui, on avait des clichés de la maison hantée et un certain nombre de stéréotypes pour représenter les maisons hantées. Alors, je vais vous proposer de suivre avec moi 2 pistes dans la manière de se représenter les maisons hantées. Avec, la première piste, avec un premier tableau, c'est une piste de l'ensauvagement. C'est-à-dire que la maison hantée va être représentée à l'époque contemporaine du XIXe siècle comme une maison où quelque chose ne va pas. Alors ce quelque chose ne va pas peut être soit très 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 visible, comme ici, soit beaucoup plus subtil, beaucoup plus ténu. Le premier élément avant de d'en venir peut-être à ce tableau-là, c'est de dire que on n'a pratiquement aucune représentation maison hantée, visuelle, graphique, hein, avant le 19e siècle, pour des raisons qui s'expliquent largement d'abord par le fait que, par exemple, la peinture ne considère la vie quotidienne, la sphère domestique, que comme un sujet tout à fait mineur jusqu'au 17e, 18e siècle. Hein, ce sont les peintres flamands et les peintres hollandais qui vont petit à petit introduire les scènes de la vie quotidienne. Donc il y a très peu de maisons qui sont représentées avant le 17e, 18e siècle. Et puis ensuite, il y a un problème de taille, évidemment, c'est comment représenter la hantise. Hein, qu'est-ce qui va identifier une maison hantée? Les artistes ont imaginé un certain nombre de codes permettant de signifier au spectateur la hantise. Alors le premier code, c'est de dire que la maison hantée, c'est une maison déchue, une maison qui a décliné, donc une maison en ruine. La ruine est très importante dans la représentation de la maison hantée. Et c'est une maison qui a perdu ses fonctions principales. Une maison, ça sert à protéger la famille, protéger le foyer, mais aussi protéger contre l'extérieur, contre l'altérité, contre ce qui peut l'atteindre et lui faire du mal. Or, ici, vous avez donc un premier tableau donc de Thomas Moran, qui est un Britannique s'est installé, a immigré aux États-Unis au milieu du 19e siècle, qui a été fasciné par les paysages de l'Ouest américain, et qui est l'un des tout premiers peintres dans la peinture à huile, qui est quand même la peinture noble, à utiliser dans les titres de ses tableaux, à signifier dans le tableau qu'il représente des maisons hantées. Donc vous en avez deux. Ici c'est Haunted House 1, et puis le deuxième tableau juste après, Haunted House 2. Voilà. Alors, c'est ces deux toiles qui datent toutes les deux de 1858 ont des points communs. Alors, parmi ces points communs, il y a la ruine, d'abord, le fait qu'il n'y ait plus de toiture, plus de. Que l'espace domestique soit devenu un espace entièrement végétalisé, envahi par les lierres, par une végétation particulièrement dense et touffue. Autre point commun entre les deux tableaux, on a l'impression que cet espace est devenu proprement inhabitable, c'est-à-dire que même si on ne voit pas l'intérieur de la maison, on devine qu'elle est entièrement envahie de lierre et de ronces, qu'elle est donc devenue inhabitable et que l'humain n'y est plus le bienvenu. Les seules représentations, on va dire, ce sont celles de ces oiseaux, ces corbeaux qui s'approchent de la maison. Et puis, les couleurs utilisées sont des couleurs qui vont renvoyer à l'automne, avec des orangés, et puis en même temps des ciels un peu plombés, donc pour produire une impression un peu inquiétante. Et si on regarde aussi, on a quand même des premiers signes, alors c'est l'un des tout premiers à le faire, des premiers signes qui, dans l'architecture, montrent qu'on transforme la maison. Par exemple, ici, vous avez une sorte de fenêtre qui est un oculus qui ressemble un peu à un œil. Ça, c'est une des choses qu'on va voir progressivement s'affirmer. C'est-à-dire que progressivement, à partir du 19e siècle, les maisons vont se transformer en quelque chose d'animé, éventuellement se transformer en habitant, en quelque sorte. Donc voici une première représentation de maison hantée. Sur la toile suivante, on va avoir une nouvelle représentation de la hantise. Cette fois-ci, c'est un peintre suisse-allemand, Arnold Böckling, qui est l'un des chefs de file du mouvement symboliste. Et vous avez ici une autre représentation de la maison hantée qui est en fait ici représentée comme une sorte de tombeau. Ici, vous avez une île nécropole. La maison est une sorte de maison troglodyte, c'est-à-dire qu'on a du mal à la différencier du rocher. Et la cour est entièrement envahie par les grands cyprès, qui sont inquiétants, qui sont aussi symboliquement les arbres de la mort. Le cadrage est très très serré, donc, et puis le ciel est très inquiétant, très chargé tout autour. et vous êtes un peu, en tant que spectateur, amené à suivre la barque avec ce suaire et ce mort qui entre dans cette maison pour ne plus en sortir. Donc, autre image très importante, c'est au-delà de cet ensauvagement, au-delà du fait qu'on a une perte des repères traditionnels, vous avez aussi l'image de la maison hantée comme comme d'un tombeau, un véritable tombeau. Image suivante. Alors là, on change de période chronologique, on passe après la Première Guerre mondiale. Ici, ce sont des tableaux d'un Américain qui s'appelle Charles Birchfield, qui appartient évidemment à un autre mouvement, à une autre école de peinture très différente. Vous avez ici une peinture qui se rapproche plutôt du dessin, voire du dessin animé et de l'animation, et qui continue la transformation de la maison hantée. Vous voyez ici, hein, les fenêtres sont très clairement des yeux, les rideaux sont très clairement les paupières, les nuages se transforment en fantômes ou en forme inquiétante, la maison a l'air de se pelotonner, de se replier sur elle-même, comme si elle était en cours d'animation. On va le voir sur les toiles suivantes. On va peut-être passer. Donc ici c'est une autre toile de Charles Birchfield qui va représenter. Alors ça va devenir un topos, hein, de la maison hantée. Les maisons hantées sont souvent des maisons où les planchers et les plafonds grincent. Donc il y a tout un tas d'éléments sonores autour de la maison hantée et une représentation notamment des greniers qui deviennent inquiétants. Où on va voir il y a un certain nombre de signes, hein, qui montrent que l'espace domestique est troublé, la poussière, les toiles d'araignée, et puis ces formes inquiétantes avec un espèce de doute sur la perception. On commence à avoir des images un peu hallucinatoires. Est-ce qu'on a ici des chauves-souris? Qu'est-ce qui émerge du sol? Est-ce que ce sont des fantômes? Voilà. Des transformations là aussi de la maison et de sa représentation. Image suivante, toujours de Charles Birchfield, c'est le Cat-Eyed House, c'est-à-dire ici encore une fois la transformation de la maison qui est signifiée, commentée à partir du moment où on commence à l'animaliser, à la transformer, à la rapprocher d'une autre image, avec ici encore une fois les seuils, les frontières, c'est-à-dire les portes, les fenêtres, perdent leurs caractéristiques habituelles pour signifier autre chose. C'est autre chose que ces portes et ces fenêtres. Toile suivante, toujours de Birchfield. Ici, vous voyez aussi, non seulement la maison se transforme, devient inquiétante, mais en plus, les sentiers peuvent devenir des serpents. Donc, on a véritablement ici des visions un peu hallucinatoires qui transforment la perception de l'espace domestique qui devient inquiétant. Alors, ces différentes toiles vont aboutir, toile suivante, voilà, vont aboutir à premiers films, alors notamment un film de 1929 qui dure 6 minutes 30. Qu'on ne va pas voir ici, mais qui est vraiment une reprise, hein, un travail sur ces représentations de Birchfield. On voit une maison hantée qui est véritablement une maison hantée inspirée par ces toiles américaines et qui va contribuer à créer un premier imaginaire plutôt burlesque, plutôt bon enfant de la maison hantée. Alors, ça, c'est une première piste qu'on retrouve jusqu'à aujourd'hui, à la transformation de la maison, son animation. On y reviendra sur un dernier exemple. La deuxième piste sur laquelle on va s'attarder un tout petit peu maintenant, c'est le fait qu'aujourd'hui, de manière très stéréotypée, lorsqu'on pense maison hantée, lorsqu'on imagine maison hantée, on imagine souvent un manoir néo-gothique, une demeure du 19e siècle. Alors après, ce cliché, on peut jouer avec, hein, c'est-à-dire qu'on peut s'en éloigner et choisir au contraire une maison qui se décale complètement par rapport au manoir gothique, mais cette représentation du manoir gothique, elle devient, c'est une sorte de clin d'œil pour signifier la maison hantée. Alors peut-être expliquer pourquoi le manoir néo-gothique. D'abord le manoir. En fait, on se rend compte que dans la littérature, à partir du milieu du XVIIIe siècle, émerge un nouveau courant qu'on appelle la littérature gothique et qui va mettre à l'honneur ce qu'on pourrait appeler des châteaux maudits. Des châteaux maudits ou bien des abbayes, elles aussi maudites, avec des personnages qui, en général, sont soit des nonnes sanglantes, par exemple, soit des aristocrates déchus ou des fantômes qui reviennent de familles aristocratiques particulièrement vénéneuses. Et donc, on a une littérature qui, en fait, accompagne un discours très critique au niveau politique. C'est le moment où justement l'aristocratie commence à perdre ses privilèges, le moment où de nouvelles élites issues du monde plutôt de l'argent émergent, et où donc le temps qui passe, la lignée perd d'une certaine manière de son importance. Le gothique devient aussi une espèce de mode, de culture, notamment lancé à nouveau en Grande-Bretagne. L'un des tout premiers peut-être à lancer cette mode, c'est Sir Horace Walpole, qui est l'un des tout premiers aussi à lancer la littérature gothique. Et il se fait bâtir un manoir qui s'appelle Strawberry Hill, qui est à côté de Londres. Et en fait, c'est au départ une maison traditionnelle sur laquelle il va construire et édifier des tourelles. Il va ajouter des arcs, des fenêtres avec des vitraux, etc. Donc il va en quelque sorte transformer sa maison en une espèce de pastiche d'une demeure du Moyen-Âge. Ça devient le goût. On le voit aussi dans les cimetières londoniens et parisiens, celui du Père Lachaise par exemple. Vous avez énormément de caveaux qui reprennent un petit peu cette forme d'église. Donc on a un goût qui s'installe au XIXe siècle pour ce type d'architecture. Et donc ici vous avez une eau-forte qui date de 1871 d'un Français, Rodolphe Brodin. Et c'est l'une des toutes premières représentations d'une maison dite enchantée dans le titre et qui utilise ce thème du manoir gothique. Alors, il va utiliser un certain nombre de recettes qui ont été élaborées juste avant, et notamment, ce qui est le plus important peut-être, outre le fait qu'il y a un surajout de tourelles, d'éléments architecturaux un peu étonnants, vous avez aussi une volonté de ne pas du tout respecter la symétrie et de jouer au contraire sur la désorientation des repères classiques. Autre élément sur lequel j'attire aussi votre attention, on y reviendra sur une autre toile, et ça devient ensuite un élément important, c'est le fait qu'il n'y a pas d'impression de profondeur entre la grille et le bâtiment. Alors, ce que vous voyez à présent, c'est une eau-forte de Piranèse qui date donc du milieu du XVIIIe siècle et qui est le tout premier à se dire que pour représenter l'enfermement intérieur, on pouvait le faire avec une architecture. Une architecture qui ne soit pas une prison, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de barreaux. On peut aller librement d'un espace à l'autre, il n'y a pas de gardien, c'est étonnamment vide d'ailleurs, mais d'abord les règles de la perspective ne fonctionnent pas, et ensuite vous avez ce qu'on retrouve après très classiquement dans de très nombreux films, des escaliers qui ne mènent nulle part, des portes qui ne mènent nulle part, des ponts-levis qui séparent plutôt qu'ils ne permettent de rejoindre, c'est-à-dire une architecture qui semble se jouer de celui qui l'occupe et qui enferme celui qui est à l'intérieur, même si il semble pouvoir dériver à l'intérieur librement. Donc ça, ces leçons-là vont être reprises par tous ceux qui ensuite vont suivre la trame du manoir néogothique. Alors sur l'image suivante, on a peut-être l'une des toiles les plus célèbres qui a inspiré le cinéma. C'est une toile donc de Edward Hopper, un artiste peintre américain. La toile s'appelle House by the Railroad. Elle est inspirée d'un manoir qui a été construit en 1825. Et cette maison, elle n'est pas dite hantée, mais il y a un certain nombre de signes qui permettent immédiatement de suggérer au spectateur qu'elle est. Premier élément, si vous faites attention, pourquoi s'appelle-t-elle House by the Railroad alors qu'on ne voit absolument pas le train ni quoi que ce soit? Parce qu'on aperçoit le ballast et les rails, et que ce ballast et ces rails permettent une chose, c'est de supprimer les fondations. Il n'y a pas d'illusion de profondeur, et on a l'impression que cette maison n'a pas de fondation. Ensuite, si vous regardez bien cette maison, il n'y a aucun élément symétrique, hein, c'est-à-dire qu'à aucun moment on a un renvoi symétrique qui aurait fait de ce manoir un manoir classique et habitable. Quand on essaye de regarder sous la galerie où est l'entrée, on ne trouve pas la porte. Elle est dans une pénombre assez inquiétante. Si vous regardez la lumière, elle vient de partout. On a du mal à savoir d'où elle vient. On n'arrive pas à savoir si ces fenêtres permettent d'ouvrir sur l'extérieur ou si elles masquent. On a l'impression qu'elles sont obturées. Et cette représentation, adjointe à celle qu'on va voir juste après, qui date de 5 ans plus tard, c'est Charles Adams, le créateur de la famille Adams, qui lui aussi va choisir de représenter une maison hantée, alors cette fois-ci par la famille Adams, comme un manoir gothique, avec à peu près le même type d'architecture. Ces deux artistes, l'un d'ailleurs plus classique, l'autre plutôt illustrateur, vont inspirer l'un des films, peut-être l'un des films les plus connus, qui représente une maison hantée, même si ce n'est pas une histoire de maison hantée. On voit la diapositive suivante. C'est le manoir de Psychose. Dans le manoir de Psychose, vous avez en fait une reprise à la fois de Rodolphe Brodin, de Edward Hopper bien sûr, et puis de Charles Adams, avec ce problème de symétrie, le fait qu'on ne voit pas les fondations et les bases de la maison, la végétation qui, d'une certaine manière, rend cet espace troublant, voilà, et cette image qui représente aussi, avec le personnage Norman Bates juste à côté, qui montre, qui redouble, finalement, la maison hantée redouble la schizophrénie du personnage. Donc la maison hantée vient ici signifier une hantise qui est une hantise psychique et psychologique. Voilà. Alors, pour terminer cette petite incursion, je voulais aussi montrer, alors ça sera l'image suivante, montrer aussi que les films se sont intéressés à des histoires, des exemples historiques, hein, de hantises qui ont fait beaucoup parler d'elles. Alors, c'est pas tellement le cas en France, parce que les histoires de maisons hantées françaises n'ont pas vraiment, on va dire, inspiré les réalisateurs français. En revanche, c'est le cas aux États-Unis, où on a un rapport à la hantise et au patrimoine hanté très différent. Et vous avez ici l'une des maisons hantées les plus célèbres des États-Unis, qui est la maison de Sarah Winchester. Alors, Sarah Winchester, pour dire rapidement, pour la présenter rapidement, c'est la veuve qui hérite de la firme Winchester. C'est la firme qui a inventé la carabine Winchester. Carabine qui a servi à la conquête de l'Ouest et qui a tué un certain nombre d'Indiens. Et Sarah Winchester, qui habite la côte Est, qui est née sur la côte Est, est persuadée que les esprits des Indiens morts à cause de la carabine Winchester la poursuivent. Et donc, après avoir consulté un médium, elle décide de s'installer sur la côte ouest. Elle achète une maison qui, au départ, ne compte que 8 pièces. Et puis, vous voyez ici, c'est une photo juste avant le tremblement de terre de San Francisco. Cette maison, elle va l'agrandir. Elle passe de 8 pièces à environ 130 pièces. Et cette demeure existe toujours. Elle est à la mort de Sarah Winchester, fin des années 1920, elle a été rachetée, transformée assez rapidement en musée. Il y a eu un certain nombre de documentaires dès les années 1950 qui en ont fait une attraction touristique, et aujourd'hui c'est devenu un musée de la hantise. Alors ce qui est intéressant dans le cas de la maison de Sarah Winchester, c'est que c'est une maison hantée très bizarre. Son but, c'est en fait de piéger, de perdre les esprits. Donc en fait, elle a construit une maison avec des escaliers qui mènent nulle part. Quand vous ouvrez des portes, vous tombez sur un mur. Elle a mis à l'intérieur des fenêtres un certain nombre de motifs qui pouvaient la protéger, comme des dream catchers par exemple. C'est un piège à esprit, et elle couchait dans des pièces différentes pour pouvoir se protéger contre les attaques de ses esprits. Donc, finalement, c'est pour ne pas perdre son esprit, elle cherchait à perdre les esprits qui la poursuivaient. Et ce qui est intéressant, c'est que cette maison, en fait, elle a inspiré l'un des maîtres de l'écriture, notamment un Stephen King. Stephen King a utilisé cette histoire pour inventer un manoir de fiction qu'on va voir peut-être sur la dernière image. Ce manoir de fiction, c'est Rose Red. Alors, il a écrit deux livres, et puis il y a eu des mini-séries qui ont été faites sur Rose Red et sur le journal de Helen Rimbauer. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, alors ça transforme et ça finit finalement la filiation que j'essaie de vous montrer. Cette maison hantée est entièrement animée, c'est-à-dire que dans Stephen King, la maison s'agrandit d'elle-même. Il y a des pièces supplémentaires qui poussent, comme si elle avait une vie propre, et elle finit par piéger ses propres occupants, c'est-à-dire qu'elle devient un piège, mais pour ses occupants, donc une espèce de, en quelque sorte, de plante carnivore qui mangerait ses occupants. Donc c'est une des maisons hantées peut-être les plus inquiétantes du cinéma, et en même temps ça reprend tous les codes imaginés au 19e siècle et jusqu'à nos jours, c'est-à-dire cette maison gothique qui représente à la fois au 19e siècle le mauvais goût et une forme de laideur, et en même temps qui a une beauté assez sauvage et romantique, hein, toujours dans cet esprit finalement très, très romantique qui voit la naissance, hein, des maisons hantées, de la littérature de maisons hantées. Voilà le petit parcours que je voulais vous proposer. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, et j'espère que ça... Alors, c'était peut-être pas ce à quoi vous attendiez peut-être à des anecdotes sur des maisons hantées, mais voilà, mon idée c'était de vous présenter peut-être des clés pour comprendre certaines représentations dans les films. Je vous remercie.
C'est magnifique, s'il vous plaît. Avez-vous des questions pour cet ami? Voulez-vous des précisions, des questions? Oui, vas-y. Alors, je fais le micro ou pas?
Donc c'était plus pour savoir en fait comment les scientifiques ils interprétaient les phénomènes du Ouija, les voix qui étaient enregistrées sur les magnétophones, tout ça, parce qu'on peut voir pas mal de documentaires en fait. Il y a aussi la transcommunication écrite, parce qu'il y en a qui arrivent à écrire par l'intermédiaire d'un esprit, à ce qui paraît. Donc c'était pour savoir comment c'était les explications scientifiques, donc rationnelles et surnaturelles en fait.
Alors en fait, d'abord sur les techniques en elles-mêmes, donc ça ce sont des techniques nées avec le spiritisme. Les premières techniques de communication, ce qu'on appelle la typtologie, hein, c'est des coups frappés, donc ça permet une communication relativement restreinte par oui, par non. Le Ouija, c'est la planchette qui permet de par exemple dicter des noms, enfin, d'obtenir, de faire des mots, etc. Vont ensuite apparaître d'autres techniques qui permettent effectivement aux médiums, donc ceux qui ont des talents de transcrire ce que les esprits leur dictent, ou bien d'être pris en transe, parce qu'il y a des médiums à transe aussi, d'écrire sous cette dictée-là. Alors ça va évidemment tout de suite intéresser les scientifiques, notamment les médecins. Beaucoup de médiums ont été étudiés parfois pendant de très nombreuses années par des médecins connus, certains qui sont devenus des prix Nobel réputés pour des découvertes, notamment par exemple dans les rayons X ou ce genre de choses. Hein. Les enquêtes ou les recherches sur les maisons hantées ont permis des avancées scientifiques incontestables. Alors après, les raisonnements scientifiques, vous avez soit ceux qui considèrent que ce sont des supercheries, et puis vous en avez d'autres qui considèrent que ce sont des forces nouvelles, parfois inconnues, sur lesquelles on doit continuer à enquêter. Et ce qui est très intéressant, c'est que les chasseurs de fantômes vont élaborer un certain nombre de techniques ou de matériel pour effectivement essayer de comprendre ce qu'il y a dans la hantise. Donc on va effectivement se dire que c'est peut-être une question d'onde. Donc il va y avoir des machines pour enregistrer des ondes, savoir si finalement la hantise, c'est pas quelque chose de l'ordre de l'onde. Ensuite, il y a quelque chose qui va beaucoup intéresser les scientifiques, c'est que dans la doctrine spirit, il y a le corps et l'esprit, mais le corps et l'esprit sont unis par ce que les spirites appellent du périsprit. C'est une espèce d'enveloppe dont les scientifiques se demandent ce que c'est. Est-ce que c'est du gaz? Est-ce que c'est des ondes? Il va y avoir au 19e siècle, les photographies spirites vont beaucoup s'y intéresser, des médiums qui vont essayer de matérialiser le périsprit. Ça donne des photographies que je n'ai pas amenées là, mais que vous pouvez trouver assez facilement, où on voit des médiums qui ont l'air de, en quelque sorte, baver une espèce de substance difficile à étudier. Et au Canada, c'est à l'Université de Manitoba, il y a un professeur de médecine qui a fait près de 2000 clichés de matérialisation d'ectoplasme. Qui l'a étudié, parce qu'il était présent en séance, etc. Et pour moi, jusqu'à présent, il n'y a pas d'explication particulièrement, ça continue à être des éléments à investiguer, il y a toujours des instituts qui essayent de savoir ce qui se passe. Voilà. Donc on est dans les maisons hantées, permettre de scruter un certain nombre de phénomènes, alors notamment ce qu'on appelle aussi les expériences de mort imminente. Alors c'est lié aussi, si je prends un exemple tout bête, au moment de la Révolution française, on met en place la guillotine. Avec la guillotine, il va y avoir tout un tas d'expérimentations. Enfin, les médecins vont utiliser la guillotine pour faire des expérimentations. Et notamment, ils essaient de savoir quand se produit la mort. Donc, on va demander à des guillotinés volontaires de bien vouloir se livrer à des expérimentations. Alors, par exemple, on leur demandait on leur posait une question après que la machine soit tombée sur le col ou que la tête était dans le panier, on leur demandait de cligner deux fois les yeux pour dire s'ils allaient mal. Et il y a eu un certain nombre d'enquêtes, alors on a les archives, c'est hallucinant, mais de cas, alors on se demandait si c'était mécanique, automatique, ou bien si ça traduisait véritablement La question de savoir quand la mort survient est un vrai problème au 19e siècle. Comment ça se fait que les cheveux continuent à pousser, comment ça se fait que les ongles continuent à pousser alors qu'on est mort? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc il y a toutes ces enquêtes-là, et il y a aussi toutes les enquêtes sur les maisons hantées. Un philosophe qui se demandait si en fait les maisons hantées ne traduisaient pas le fait que juste avant de mourir, il y avait quelque chose de nous qui survivait, et donc ces fantômes pourraient éventuellement exister de manière très très fugace. Donc, tout un tas de questionnaires, d'enquêtes qui ont été faites là-dessus. Assez étonnante.
Oui.
Alors, moi je voyais un paradoxe en fait, dans la mesure où les maisons hantées sont quand même beaucoup plus représentées aux États-Unis qu'en Europe. Et pourtant, ça reste, on va dire, quelque chose plutôt européen, j'avais l'impression au départ. Donc, comment est-ce que vous l'expliquez? Est-ce que c'est un rapport peut-être avec le rêve américain? Chacun doit avoir sa maison? Je ne sais pas.
Non, mais c'est une excellente question. C'est vrai que. Alors, il y a plusieurs hypothèses. Hein. Première hypothèse, c'est de dire que les États-Unis sont un pays neuf. et que le fait d'avoir des maisons hantées, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose, il y a une histoire. Beaucoup d'histoires de maisons hantées aux États-Unis, les histoires de maisons hantées sont fascinantes aux États-Unis. Beaucoup d'histoires de maisons hantées aux États-Unis font revenir des êtres primitifs, des Indiens, des pré-Indiens, des créatures tout à fait étonnantes qui vont inquiéter beaucoup les Américains. Il y a notamment dans le centre des États-Unis un certain nombre de maisons hantées qu'on appelle des spirit rooms, et vous avez des esprits qui reviennent. Et il y a des enquêtes qui durent très très longtemps pour essayer de comprendre ce qui s'y passe. Et ce sont des Indiens qui reviennent, voilà, donc il y a ça. Il y a aussi le fait que les États-Unis sont une terre de syncrétisme, mais au XIXe siècle, en fonction des régions et des États, les maisons hantées ne sont pas les mêmes. Je vais prendre juste un exemple. À la Nouvelle-Orléans, donc en Louisiane, qui est une grande terre de hantise au XIXe siècle, vous avez beaucoup de maisons hantées où on va retrouver à la fois une espèce de description des revenants et des fantômes qui tiennent à la culture européenne, qui touchent à la culture gothique, et en même temps des choses qui sont proches de la culture vaudou, parce que vous avez des esclaves noirs américains qui arrivent et que vous avez donc un certain nombre de cultures qui passent. Donc là, on peut avoir d'autres choses, y compris des zombies, y compris des choses qu'on ne voit pas en Europe. Et puis, vous avez aussi donc cette fois-ci, ce sont moins les châteaux maudits comme en Europe. Hein. C'est pas l'aristocratie qui est déchue ou qui est mal vue, c'est plutôt les planteurs. Et donc, on va avoir souvent des plantations hantées avec cette fois-ci des suppliciés, des esclaves qu'on a martyrisés et qui reviennent. Ça aussi, c'est une évolution intéressante parce qu'on voit qu'en fait, il y a différents types de maisons hantées. Il y a les maisons hantées, on va dire, avec le diable, la possession, etc. Mais de plus en plus, à partir de la fin du 19e siècle et surtout au 20e siècle, la maison hantée, ça devient quand même la maison où il y a eu des meurtres, hein, une maison en quelque sorte où il y a eu le sang qui a coulé. Il y a un tourisme qui va se développer. Par chance, par exemple, aux scènes de crime à Londres de Jack l'Éventreur. Il y a un tourisme qui va se développer autour de ça, qui est toujours présent d'ailleurs, et qui vont faire des maisons hantées, des maisons sanglantes. Voilà. Ce qui n'était pas forcément le cas au départ.
Voilà. Quelqu'un d'autre ? Non ? Eh bien, je vous prie de remercier en applaudissant Stéphanie Sauvé, notre conférencière pour les maisons hantées. Conférence qu'elle a préparée tout spécialement pour vous le week-end. Prochaine conférence, du moins, ça sera à 18h, donc dans une heure maintenant. Vous avez le temps d'aller vous restaurer, boire un petit coup, parler un petit peu, fumer votre cigarette. Le temps, dans une heure, rendez-vous avec Bérangère et vous parler cette fois des tueurs en série. Attention, c'est une conférence interdite aux moins de 16 ans et aux personnes sensibles, puisqu'il y a quand même des images assez dures à voir en général. Voilà, à tout de suite. Merci de votre attention.